Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Et cette semaine, c'est le dernier épisode de notre thématique « L'éducation populaire en action ». Et pour ce dernier épisode, je vous propose une interview jumelée avec Honorine de PFM qui avait participé à la formation comme moi en décembre dernier. Donc là, je rappelle, c'était la formation « Comprendre la société pour agir » organisée par Culture et Liberté et animée par Paul Masson et Laurence Zaderatsky. Et donc pour ce dernier épisode, je vous propose une interview que nous avons réalisée Honorine et moi, des deux formateurs, Paul Masson et Laurence Zaderatsky. Et je mélange cette interview avec des sons d'ambiance de la dernière journée de cette formation. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce reportage. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain reportage de Micro Rebelle Hebdo. Et je vous dis bonne écoute.
Quatre jours de formation très intense autour de Comprendre pour agir avec Paul Masson et la présidente de Culture et Liberté, Laurence. Peut-être première question, est-ce que j'ai fait une brève présentation de votre parcours, est-ce que vous pouvez un peu étoffer ceci?
Moi, je suis militante d'éducation populaire depuis très très longtemps. Et l'idée de cette formation, elle est née lorsque Le Pen a fait 20% aux élections et que je me suis rendu compte que dans les quartiers populaires où les mouvements d'éducation populaire étaient installés normalement, on avait un taux de personnes qui votaient Front National, alors que si le Front National prenait le pouvoir, ça serait les premières victimes. C'est ça que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont on conduit nos trucs d'éducation populaire. Il faut repenser ce qu'on fait et comment on le fait.
L'histoire commence il y a 10 ans, où moi j'ai suivi, je suis militante comme Paul de l'éducation populaire, alors pas forcément dans les mêmes mouvements, hein, c'est une grande famille l'éducation populaire, et il y a 10 ans donc suivi une formation sur militant animatrice d'éducation populaire. Et puis, j'ai fait plein de choses entre les deux. Et puis, on se voit régulièrement avec Paul. Et dans sa volonté à Paul aussi, c'est une dimension importante de l'éducation populaire, c'est la transmission. Et donc là, moi, j'ai accepté, j'ai franchi le pas de me mettre non plus en position de stagiaire ou de personne que l'on forme, mais en position d'animatrice de cette formation, en co-animation avec Paul.
Ce que je veux faire apparaître, c'est que à la fin du processus, quand le consommateur va acheter le produit, il va payer, entre autres, l'amortissement des machines. On pourrait croire que les machines viennent du capital. C'est pas vrai. La machine initiale vient du capital. Pour acheter la première machine, il a fallu du capital. Le fait que j'ai mis du capital dans l'entreprise me donne un droit indéfini d'avoir un revenu sur ce qui sera produit après coup. Même si j'ai mis 100 et que la machine, le total des machines vaut 10 000. Les 10 000, c'est pas moi qui les aurais mis, moi j'aurais mis 100. Mais le fait que j'ai mis 100 me donne un droit indéfini. Si j'ai le droit à un revenu comme actionnaire, c'est du fait de mon titre de propriétaire. Ça, c'est l'organisation sociale qui en convient et le justifie. C'est le truc que je veux faire voir, parce qu'on laisse entendre, mais les machines, c'est quand même le propriétaire du capital. C'est pas vrai. La majorité de l'argent des machines provient du consommateur. quand vous achetez un stylo, vous mettez de l'argent qui servira à payer les salariés, à payer l'impôt, l'impôt taxe sur la valeur ajoutée, à payer les revenus du propriétaire qui a droit, parce que propriétaire il a droit à un revenu, à donner des revenus aux banques parce qu'elles ont prêté les 100 euros pour faire la machine, et vous payez l'amortissement et l'auto, le terme c'est auto-financement de l'entreprise. Vous saisissez bien. L'idée c'est l'addition du capital plus le travail qui permet de produire de la valeur. Non, ce qui permet de produire de la valeur, c'est uniquement le travail. Je crois que ça c'est important. Et le terme de valeur travail, alors à un moment, dans le montage qu'on a passé, ils disent, pour échanger des poulets contre des baleines, il fallait un outil, l'argent. Mais combien vaut une baleine, ça vaut combien de poulets? L'unité de mesure pour échanger un stylo, j'échange mon stylo contre ton manteau, tu me le donnes? Non? Et si je te dis le contraire, je te donne mon manteau contre ton stylo, tu me le donnes?
Comment vous l'avez organisé cette formation « Comprendre la société pour agir » ?
On est parti de documents que Paul avait déjà travaillé. Et puis on a vu un petit peu, puisque l'objectif donc, était la co-animation, donc on a vu un petit peu comment on allait se répartir les rôles dans cette animation sur ces 4 jours. Et en même temps, on en a profité pour sélectionner les points qu'on voulait mettre vraiment en exergue pour que les personnes qui venaient à cette formation, dont l'intitulé c'est « Comprendre la société pour agir », puissent effectivement repartir avec une boîte à outils augmentée de ces 4 jours.
Bah peut-être est-ce que vous pouvez développer le contenu et comment vous avez vraiment mis en forme aussi cette formation qui, moi ça m'a beaucoup, enfin j'étais participante finalement, et moi ça m'a surpris dans la façon d'intégrer les notions qui sont pas simples, parce que l'économie pure, en même temps en ayant beaucoup de débats et de discussions entre les participants qui à la base se connaissaient pas vraiment non plus.
Ça, c'est un type de démarche. On est parti d'une bande dessinée où il se passe... on a affaire à une société, à une mini-société, qui se trouve dans une situation où il y a un besoin criant de changer quelque chose pour qu'il puisse continuer à vivre. Et au cours de dans la bande dessinée, il va y avoir une évolution de cette société. Donc l'idée, ça va être de permettre aux participants de se questionner sur qu'est-ce qui se passe pour comprendre qu'est-ce qu'on trouve dans toute société. Ça, c'est l'objet presque de la première journée. Ça a pour avantage de réussir à comprendre la société dans laquelle on est et à la fois la société à laquelle on aspire, puisqu'on a les clés de toute société, il y a ces éléments qui la constituent. Le deuxième temps, au cours de la bande dessinée, il va y avoir des transformations telles que la société à la fin, ne pourra plus être comme elle était avant. C'est-à-dire qu'on est dans une période de transformation. Et donc, il va y avoir tout un questionnement qui permet de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une société change. Qu'est-ce qui fait que... Comment ça se fait que ça change? Et ça va être l'objet de la troisième journée. La deuxième journée. La troisième journée, on va aborder plus en détail l'économie. Et pour faire apparaître, comment, qu'est-ce que c'est que l'économie, la production, la consommation, l'échange, et comment cette économie, elle est conditionnée par l'organisation de la société. Selon l'organisation sociale qu'on va avoir, on aura tel ou tel type de production, tel ou tel type de consommation et tel ou tel type d'échange. La quatrième journée, essentiellement la matinée, a travaillé sur envisager la suite de la bande dessinée. Et à partir de ça, de voir qu'est-ce que, pour penser la société future, sur quels paramètres on peut jouer, de quoi il faut qu'on tienne compte. Et l'après-midi, on a essayé de tirer l'enseignement de ces 3 jours et demi de formation et de l'évaluer, c'est-à-dire de se poser la question, mais qu'est-ce que ça vaut ce qu'on a pu faire? Et on a envisagé des perspectives. Parmi les perspectives, dans 9 mois, on a convenu de se réunir pour voir qu'est-ce que ça avait produit.
Écoutez Jacques Mayol du groupe Sport et votre reportage va reprendre dans quelques instants.
The IDS building, the big glass one, tall skyscraper in the Midwest after the Sears or Chicago or John Hancock building. You never been to Minneapolis?
Nope.
Would it kill you to say something?
I did.
No. First thing you've said in the last 4 hours.
Micro Rebelle Hebdo, c'est tous les mardis à 15h sur Radio PFM 99.9 et sur internet microrebelle.fr. La suite de votre reportage, c'est maintenant. Vous l'avez dit tous les deux, ça fait 10 ans que vous faites cette formation, si je ne me trompe pas. Votre ressenti sur cette formation là qui vient de se terminer, donc de décembre 2016, par rapport aux autres, comment vous l'avez vécu, Comment vous l'avez ressenti maintenant que cette formation est finie aujourd'hui ?
Alors du coup, sur le ressenti en tant que formatrice, ce qui est vraiment le premier ressenti, c'est vraiment cette confrontation et cet échange autour des représentations du monde. Il y avait un groupe là qui venait d'horizons divers, différents, et qui ont, avec beaucoup de respect, échangé et confronté les représentations du monde qu'ils avaient. Mesuré aussi combien la pensée dominante actuelle pouvait être formatrice et, je dirais presque, selon une expression qu'on attribue à un cycliste, à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire que cette mise à jour de ce qui représente des chaînes et des leviers dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de se dire, est-ce que autre chose est possible ? On l'a dit en riant un petit peu, on est parti de ce constat en arrivant en disant est-ce qu'il n'y a pas d'alternative ? There is no alternative, le fameux Tina cher aux penseurs du choc des civilisations. Et à la fin de ces quatre jours de formation, ce qu'on a entendu, c'est que there are alternatives. Donc il y a des alternatives et elles sont plurielles. Les chemins sont différents puisque notre boussole a été d'analyser ce monde et dans les clés de compréhension à travers l'environnement, la culture, l'économie et l'organisation sociale. Et vraiment, dans le ressenti, c'est que pour le groupe, il y a eu un cheminement. Pour certains, ça a été une confirmation de ce qu'ils pressentaient ou de ce qu'ils connaissaient. Pour d'autres, j'ai bien vu qu'il y avait une découverte pour un certain nombre. Et puis découverte aussi sur le pouvoir des mots. Des mots dont on est finalement dépossédé et qui sont biaisés. Alors des mots travail, des mots comme le collectif, et les remettre à leur place, une place qui est une place qui se veut une place libératrice et émancipatrice.
Il va y avoir tout un vocabulaire qui crée la confusion. Et c'est délibéré. Si on vous parle de charge patronale et qu'on vous dit on va diminuer les charges patronales, vous vous en foutez. Si on dit on va diminuer les revenus de la sécurité sociale, vous vous en foutez pas. Si on vous dit la même chose, enfin, vous vous en foutez. La personne qui connaît tous les mécanismes, elle va faire le lien. J'ai entendu, ça m'a... L'autre matin, le conseiller Fillon disant on va diminuer les cotisations des entreprises pour donner du pouvoir d'achat aux travailleurs. Ce qui l'enlève, en diminuant les cotisations... Vous enlevez aux travailleurs toutes les charges, tout ça, ce qu'on appelle les charges patronales, qui sont les cotisations sociales payées par l'entreprise. Cette partie-là rentre dans les salaires socialisés. Si vous supprimez ces charges-là, les charges salariales, ils continueront de payer, et tout ça, vous enlèverez. Et si vous supprimez les deux charges salariales, eh bien, vous faites disparaître toute la protection sociale. Ce qui correspond à une visée du capitalisme. Parce que là-dessus, on ne peut pas faire de profit. Alors que si vous faites disparaître la sécurité sociale, vous allez prendre, si vous avez des sous, des parts chez AXA, pas sur une mutuelle, chez AXA.
Des assurances privées.
Et des assurances privées. Et l'idée, c'est ça. C'est faire en sorte que les assurances privées puissent se réapproprier toute une part de l'économie sur laquelle on ne peut pas faire profit.
Mais ça permet de redresser la France.
Ça permet
Ça permettra de redresser la France.
C'est
du baratin. Mais la France, elle n'est pas comme ça. Hein. Elle va bien. Hein.
Non, je ne sais pas.
Je suis en train de la redresser. Hein.
Allez, on va essayer d'une part. Ce que tu dis, si on peut réduire les charges patronales, ça pourrait augmenter le pouvoir d'achat si cette baisse de charges était remise dans le salaire direct, hein, avec les dérives que tu évoques. Hein. C'est vrai qu'après, du coup, il faudra quand même faire financer notre protection sociale.
Tu ne leur demanderas pas le pouvoir d'achat.
Ah, ça n'en sait rien. Tu sais pas ce qu'ils vont renier sur leurs charges patronales. Ils ont deux solutions. Soit ils le remettent dans le salaire des salariés, donc ils augmentent le salaire de tout le monde en proportion de ce qu'ils ne donnent pas à la protection sociale, aux organismes de protection sociale. Soit ce qu'ils ont gagné là, ils le remettent ailleurs, c'est-à-dire dans les dividendes, dans l'investissement, etc.
Mais même s'ils mettent tout, ils mettent tout en salaire direct, la part des salariés n'a pas augmenté. Non.
Mais non.
Et non.
Tu auras plus d'argent.
Mais cet argent, tu seras obligé de payer.
Quand tu vas devoir payer tes 3 000 euros
de retraite, parce
que t'as plus personne.
Oui, non, mais après, c'est notre problème. Oui, c'est donc on augmente bien un pouvoir d'achat quelque part, sauf qu'effectivement, dans les charges du salarié, on remet toute la protection qui devra se faire tout seul.
Oui, c'est ça. Mais alors, tu n'entends pas,
un petit rendu.
Le mot d'éducation populaire revient petit à petit, j'ai presque envie de dire à la mode. Comment ça évolue, ça aussi, l'importance aussi de ces formations qui se redémocratisent un petit peu?
Je ne sais pas si c'est une mode et j'espère que ce n'est pas une mode. J'espère que si, effectivement, ça faisait 4 ans que je n'avais pas refait cette formation sous la forme de 4 jours consécutifs. Et on n'a pas eu de difficulté pour avoir 13 personnes qui restent 4 jours. Donc ça correspond à un besoin. Et je pense que par rapport, on pourrait dire, aux difficultés et qu'on retrouve particulièrement au niveau de la jeunesse, de se repositionner devant une sorte d'impasse du politique tel qu'il est structuré jusque-là, il y a ce besoin d'avoir des clés pour comprendre le monde, de manière à dire comment qu'on va agir. Je crois que le renouveau de l'éducation populaire, c'est un petit peu, on est obligé de passer par là si on veut pouvoir être acteur chez soi, être acteur de sa vie et transformer le monde. Donc je pense que ce n'est pas une mode, que c'est une nouvelle nécessité de... Et la forme que ça prendra, par contre, elle est en train d'évoluer. Ce n'est pas sûr que ce soit les grandes fédérations qui soient porteurs de ça, comme ça l'a été pendant longtemps. Mais l'éducation populaire reprend de la place.
Tu parles de besoins. Où est-ce que tu situerais cette formation sur l'échelle de Maslow?
Ah, eh ben, y a besoin de faire société, hein. Les personnes s'aperçoivent, je m'aperçois que je ne peux pas vivre tout seul. Et même si j'arrive à m'en sortir tout seul, j'aspire à ce qu'on fasse société à plusieurs. Je crois que c'est à ce niveau-là que se situent les aspirations de gens qui ont pu venir faire la formation ou de gens qui entendent agir pour transformer la société.
Eh bien voilà, c'était la fin du reportage et la fin de notre thématique, l'éducation populaire en action, qui, je vous le rappelle, vous donnait un aperçu de la formation Comprendre la société pour agir, une formation organisée par Culture et Liberté, une association d'éducation populaire. Et cette formation avait été animée en décembre dernier à Arras par Paul Masson et Laurence Zaderatsky. Alors l'interview que vous avez pu écouter pendant ce reportage, je vous le rappelle encore, c'est une interview que nous avons réalisée à deux voix, Honorine de Radio PFM et moi-même de Micro Rebelle Hebdo. Et de Micro Rebelle tout court d'ailleurs. Alors, un mot sur la musique libre que nous défendons à Micro Rebelle. Vous avez pu écouter pendant ce reportage une chanson du groupe Sport, un groupe lyonnais. C'était Jacques Mayol, tiré de leur album Bon Voyage. Et on va écouter une autre chanson de ce même album et de ce même groupe. À la fin, on va s'écouter Ulrich Meyer. Et le générique et les petites transitions sont toujours du morceau Agonie de Nitz Beats, tiré de leur album Alternate Soundtrack to Un Chien Andalou. Et bien voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain reportage de Micro Rebelle Hebdo. Oui, vous pouvez retrouver sur internet, sur microrebelle.fr, toutes nos émissions de Micro Rebelle Hebdo, que nous diffusons chaque mardi à 15h sur Radio PFM 99.9, la radio d'Arras et de ses alentours. Et sur notre site internet, vous pouvez aussi du coup retrouver les deux premiers épisodes de l'éducation populaire en action, tous les reportages, nos émissions littéraires. Et vous pouvez aussi les télécharger ou les écouter en streaming directement. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !